Saint-Esprit, c'était pas une force gravitationnelle, une force électrique, une force magnétique. C'était d'abord une personne, parce que le Saint-Esprit, lorsqu'on lit la Bible, a tous les attributs de la personne. Il reçoit des émotions, il peut exprimer des sentiments, il peut parler, il peut interdire, il peut se réjouir, il peut être attristé. Et puis on a vu ensuite que le Saint-Esprit, c'est pas comme une force que Dieu utiliserait, mais le Saint-Esprit, c'est aussi Dieu, au même titre, à même part que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. On a parlé de la Trinité, un Dieu unique en trois personnes, un concept difficile à saisir, mais Dieu est plus grand que nous. Il est dit dans Ésaïe 55 que autant les cieux sont élevés au-dessus de nous, autant ses pensées sont élevées au-dessus des nôtres. Et nous sommes des créatures, nous ne sommes pas le Créateur. Mais il a choisi de révéler certaines choses, et la vérité, c'est que le Saint-Esprit est Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais voir deux des principaux ministères du Saint-Esprit. Et Jésus a dit dans Jean 16, 7, vous pouvez vous y tourner. On va lire à partir du verset 5. C'est page 125 de la Bible à la Colombe. Donc Jésus fait ses adieux à ses disciples, à ses apôtres. Il leur explique qu'il va devoir aller à la croix. Il leur dit, verset 5, je commence à partir du verset 5, « Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et nul de vous ne me demande où vas-tu. » Donc il va vers Dieu le Père qui l'a envoyé. « Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. » Et là, le mot rempli, c'est-à-dire que ça déborde. Ils sont complètement envahis, on pourrait dire, par le chagrin, la tristesse. Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Le mot important, c'est le Consolateur. C'est le premier ministère dont je veux parler aujourd'hui, le ministère de consolation de l'Esprit-Saint. Ce qui est formidable avec le christianisme, c'est que c'est une religion totalement différente des autres religions. Les autres religions, c'est l'homme qui essaye d'aller vers Dieu en s'imposant des sacrifices, en s'imposant une certaine moralité. Un peu comme quelqu'un qui essaierait de monter une échelle pour arriver à un certain niveau. Le christianisme, c'est l'envers de ça. C'est Dieu qui vient parler aux hommes, qui révèle sa parole, mais qui vient en la personne de son Fils, qui vient toucher l'humanité. Et ça, c'est formidable parce que il y a beaucoup de religions qui ont des préceptes moraux très, très respectables et très, très bons en soi, en eux. Que ce soit le confucianisme, le bouddhisme, l'islam, ces religions prennent un respect de la personne, un respect de l'honnêteté, d'une certaine moralité. Mais l'homme est laissé à lui-même pour vivre cette moralité, ses préceptes. Le christianisme, c'est Christ qui vient vivre en nous. Je me souviens lorsque j'étais enfant, je devais avoir 5 ans ou 6 ans. Nous avions des bons amis à Perpignan dont le mari était moniteur d'auto-école. Il avait une voiture à double pédale. Il avait même à l'époque deux volants. Ça se faisait encore à l'époque. Et il aimait bien Et moi, j'adorais me mettre au volant à gauche ou à la place normale du chauffeur, et puis conduire dans le quartier. C'était drôle de voir les gens qui voyaient un petit garçon de 5-6 ans au volant en train de... Mais en fait, c'était pas moi qui conduisais. C'est lui qui débrayait, qui passait les vitesses. C'est lui-même qui... Il n'avait pas les mains là, mais il les avait en bas, donc c'était plus discret. Il tournait le volant quand je dis... Et en fait, la vie du chrétien, ça devrait être ça. Le chrétien, c'est l'Esprit Saint. C'est Christ, par son Esprit Saint, qui vient en nous habiter. Paul a lui-même dit dans Galates, page 214, ça c'est dans Galates 2:20. Et ça, il parle pour tout, pour lui-même et pour tout chrétien qui est venu à Christ. Il dit, verset 20, page 214, « Je suis crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Ça, c'est un verset que vous pouvez encadrer, c'est un principe fondamental. Le chrétien, c'est pas quelqu'un qui essaye de vivre des préceptes, c'est quelqu'un qui s'abandonne à Christ. C'est Christ qui vient vivre en lui. Et lorsque Christ a été crucifié, voilà près de 2000 ans, il se produit une réalité spirituelle que là aussi on ne comprend pas, mais chaque fois que quelqu'un vient à lui pour mettre sa confiance en lui, cette personne est crucifiée en même temps. Je suis crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis. Notre chair est crucifiée avec le Christ. Et le Saint-Esprit vient donc nous consoler, nous habiter. En fait, le mot consolateur qu'on a vu dans le chapitre 16 de Jean, au verset 7, c'est aussi le mot que l'on traduit des fois dans des vieilles versions par le paraclet. C'est un mot un peu vieillot maintenant, mais c'est une traduction littérale du grec parakaleo. Parakaleo, para, ça veut dire venir aux côtés d'eux, le long de quelque chose. On dit la parapsychologie, c'est les disciplines qui sont aux côtés de la psychologie. C'est un peu mystérieux, un peu vaseux des fois, mais ça vient aux côtés. Et puis kaleo, c'est appelé. Donc l'Esprit Saint, le Consolateur, c'est celui qui est appelé à nos côtés pour nous aider. Et dans la langue ancienne, le grec, le mot pouvait s'employer pour un avocat, pour un défenseur. Quand, je ne sais pas si ça vous est arrivé d'avoir affaire avec la justice, mais si vous n'avez jamais eu affaire, on a l'impression d'être face à une machine inquiétante. Et on est rassuré lorsqu'on a quelqu'un qui vient nous aider, un défenseur, et on a tendance à lui remettre notre condition entre ses mains. On lui dit, j'y connais rien, qu'est-ce que je dois faire, maître ? Et il va nous aider, si c'est un bon avocat qui a à cœur nos intérêts, c'est le cas du Saint-Esprit, il va nous aider dans la situation. Et donc ce consolateur, c'est quelqu'un qui vient à côté de nous pour prendre les choses en main. On vit dans un monde où on apprend que chacun doit arriver à faire sa vie, on a l'image de ce qu'on appelait les self-made men, les hommes qui s'étaient faits par eux-mêmes, qui ont réussi, qui à force d'endurance, de bataille, ont du succès. Mais bien souvent, on réalise qu'en fait, on est peu de choses face aux éléments, face aux revers de fortune, face à la santé, aux problèmes de santé. Et il est bon d'avoir quelqu'un à qui on remet les choses. On dit, Seigneur, là, je comprends plus, je te remets. Et c'est tellement bon d'avoir quelqu'un, lorsqu'on on a confiance que cette personne nous aime, de dire, je ne sais pas, prends les choses en main. Ça ne veut pas dire que nous devons tourner les pouces et être des adeptes de la paresse, comme Alexandre de Bienheureux, je ne sais pas si vous avez connu le film. Non, c'est au niveau spirituel de la direction de notre vie, on peut se remettre au Consolateur. Il vient à nos côtés pour nous fortifier, pour nous encourager, pour nous défendre, pour nous conseiller, pour nous aider. Et si on est chrétien, la parole nous dit qu'il est en nous. Et il nous invite à cesser de nous battre tout seul. Nous pouvons lui remettre les rênes. On peut faire semblant de conduire la voiture, mais on peut lui dire, vas-y, c'est toi qui conduis. C'est tellement mieux, parce que lui, il sait où il va, il est conscient de toute chose. Et peut-être qu'en ce moment, je ne connais pas la situation précise de chacun, ou ce qu'il y a dans votre cœur, peut-être vous avez des situations qui semblent vous dépasser, des situations ou des relations, surtout avec les gens, qui sont en crise, où tout semble perdu. Peut-être vous cessez d'avoir l'espoir pour une chose que vous avez espérée pendant longtemps. Toutes ces frustrations, toutes ces choses-là, ce sont des occasions pour demander à l'Esprit Saint de vous aider. Parce que on a vu que les disciples étaient remplis de chagrin à l'idée de partir, de voir Jésus partir, parce que c'est vrai que c'était formidable d'être avec Jésus. Si on n'avait pas de nourriture, si on avait faim, pof, on multipliait les pains. S'il était au milieu du lac en pleine tempête, il arrivait, il calmait la tempête. Si quelqu'un de cher était décédé, il arrivait, il ressuscitait la personne. On est triste à l'idée de certains parmi nous sont partis loin d'ici. Mais imaginez d'avoir vécu avec Jésus, d'avoir vu ce pouvoir, cette capacité de guérir les malades, et d'un seul coup, il est mort, il est... À cette idée, les disciples étaient dévastés. Mais Jésus leur promet de leur envoyer un consolateur, quelqu'un qui va venir à côté pour les guider, qui va... non seulement les aider dans leurs décisions, mais aussi prier pour eux. On a vu la semaine dernière que l'Esprit Saint prie pour nous, il intercède avec des soupirs inexprimables, il est dit dans la parole. Et la chose la plus difficile à vivre, c'est sans doute le décès d'un être cher. On a vu il y a une semaine avec le décès de quelqu'un que la plupart d'entre nous n'ont jamais vu en personne, il y avait quand même quelque part une douleur. Et quand c'est une personne, un être cher, un époux, une épouse, un parent, un enfant, la douleur peut être totalement accablante parce qu'on ne peut plus exprimer notre amour vis-à-vis de la personne, on ne peut plus recevoir l'amour de la personne, il n'y a plus d'échange. Et il faut être consolé, et c'est là que l'Esprit Saint peut venir consoler le croyant. Et on voit comment, dans le livre des Actes, comment cette tristesse des apôtres qui voyaient tous leurs espoirs anéantis sur la croix, on voit comment cette tristesse est transformée en joie. Ils commencent à. Une fois qu'ils ont reçu l'Esprit Saint, ils vont annoncer la nouvelle de partout. Au mépris des périls, au mépris de leur vie, parce qu'ils ont en eux ce consolateur qui les guide et qui les aide. L'autre ministère important dont je veux parler aujourd'hui de l'Esprit Saint, c'est le ministère de conviction. Et on trouve le passage dans ce qui suit, justement. Donc, chapitre 16. Versets 8 et suivants, on va lire ensemble, page 125. Jésus vient de leur parler qu'il est bon pour lui de partir. Et c'est vrai que Jésus pouvait faire de bonnes choses, mais il était limité à un seul emplacement. Alors que l'Esprit Saint vivant en tous ses disciples et en tous les chrétiens peut être à l'œuvre de par la terre. Et verset 8, il dit, « Et quand il sera venu, parlant de l'Esprit Saint, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. De péché parce qu'il ne croit pas en moi, de justice parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus, de jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Ça, c'est un verset intéressant à étudier parce que, quelque part, Jésus affirme des vérités qui surprennent quelque peu. Quand on entend dire le ministère de conviction, on entend parler du ministère de conviction du Saint-Esprit, on dit « Ah oui, c'est bien ça. Il faut que les pécheurs réalisent qu'ils sont pécheurs. » Et souvent, on a tendance à prendre la place du Saint-Esprit. On va aller pointer aux autres ce qu'ils font de mal, on va leur dire « Non, ça, c'est pas bien. » Et en même temps, c'est souvent pour nous agrandir nous-mêmes. Quand on pointe le doigt vers quelqu'un qui fait quelque chose de mal, c'est parce que nous, on ne fait pas cette chose et en faisant ça, on s'élève au-dessus de la personne. Mais le travail de conviction, ce n'est pas le nôtre, c'est celui du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire, convaincre? En français, on a une idée, mais à l'origine, c'était un terme légal. C'était apporter des témoignages évidents pour prouver une faute. C'était un terme de justice. C'était un peu comme le procureur va présenter des pièces à conviction pour convaincre le jury au-delà de tout doute que telle personne est coupable. Et le Saint-Esprit fait la même chose. Il vient présenter au cœur des hommes, qu'ils soient venus à Christ ou qu'ils ne soient pas encore venus à Christ, il va leur montrer des choses concernant le péché, la justice et le jugement, pour que l'homme puisse adapter l'optique de Dieu sur les choses de la vie. Il est tellement important de voir les choses comme Dieu les voit. D'avoir les mêmes priorités que Dieu. D'avoir les mêmes soucis que Dieu. Les mêmes émotions que Dieu. Lorsque Dieu voit les pauvres, voit les enfants maltraités, Dieu, la Bible nous dit qu'il a... Son cœur est ému et touché. Nous aussi, on doit être ému par ces choses-là. Et c'est vrai qu'on est entouré par le monde où il y a tellement de souffrance que quelque part, on se fabrique une carapace. Pour éviter d'avoir mal, on endurcit notre cœur. Et ce n'est pas ce que fait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lui, il veut convaincre les hommes. Il dit d'abord... Il convaincra le monde, c'est-à-dire tous les gens de la planète, de péché. Et quand je pense, moi, au péché, je pense au péché au pluriel, je pense aux mensonges, aux toutes sortes de tricheries, au vol, au viol, au meurtre, à toutes les horreurs dont on entend parler, les choses, on dirait entre guillemets, les choses graves, les choses sérieuses. Mais ici, il parle de péché au singulier. Et il dit de péché parce qu'il ne croit pas en moi. Et ça, c'est quelque part, c'est un peu surprenant. Mais en fait, c'est vrai, on en a déjà parlé, il n'y a qu'un seul péché grave. Ou comme disait l'ancienne terminologie catholique, un seul péché mortel. Un péché qui va nous empêcher d'avoir la vie éternelle avec Dieu pour toujours. Et ce péché, c'est justement de ne pas croire en Jésus-Christ. La Bible explique dans 1 Jean 1 que quoi que nous ayons fait dans le passé, quoi que nous ayons caché dans les bas-fonds de notre passé, le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. On a étudié dans Hébreux la puissance du sang de Jésus. Et le seul péché qui va nous condamner un jour devant le Père, si c'est le cas, ce n'est pas parce que nous aurons triché sur nos impôts, ce n'est pas parce que nous aurons fait des meurtres en série, ce n'est pas parce que nous aurons dévalisé des banques, ce n'est pas parce que nous aurons fait souffrir des enfants. Non, le seul péché qui condamne un homme devant Dieu, c'est de ne pas croire en Jésus-Christ. Vous vous souvenez dans Jean 3, on peut s'y tourner, page 106, On connaît bien sûr le verset le plus célèbre de la Bible, Jean 3,16, qui résume le dessein de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus poursuit en disant, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et donc ça, c'est la base du salut. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Jésus-Christ, c'est l'antidote de nos péchés. Lorsque nous sommes allés à Saint-Martin-de-Vésubie, la seconde fois, vous vous souvenez, on avait fait ce pique-nique le long de la rivière. C'était très beau comme cadre, et puis les enfants avaient trouvé ce serpent, on pensait que c'était une vipère. Et on s'est dit que la prochaine fois qu'on allait se promener, il serait bon qu'on ait du sérum anti-venin. Et on pourrait emmener un sac de pharmacie, hein, deux sacs à dos, Marie-Christine et Laurence, avec un sac à dos de pharmacie, et des tas de produits, de l'aspirine, des thermomètres, des tas de... Tout ça, ça ne servira à rien. Il n'y a qu'un médicament, ce sera le sérum antivenin. Et de la même façon, l'antidote de nos péchés, c'est Jésus-Christ. Vous vous souvenez que Moïse avait dit, Dieu avait révélé à Moïse que lorsqu'une partie du peuple israélite s'était révoltée, il y avait des serpents qui piquaient et qui faisaient mourir les gens. Et la seule chose qu'ils devaient, c'était regarder le serpent d'airain, un serpent en bronze qui avait été fait, et un seul regard vers ce serpent les guérissait. Et de la même façon, Dieu explique, et Jésus le dit dans Jean, la seule chose qui peut sauver quelqu'un de la morsure du péché, c'est de regarder vers Jésus-Christ. On raconte que le grand prédicateur Spurgeon s'est converti très jeune, à l'âge de 16 ans ou 17 ans, parce qu'une fois, il y avait dans une église, il était allé dans une église poussé un peu par Dieu, et le prédicateur habituel n'était pas là, et c'était simplement un homme de l'église qui avait prêché tout ce qu'il pouvait dire, et il disait, regardez à Christ. Regardez à Christ et vous serez guéri. Regardez à Christ. Et ces simples mots ont vraiment touché Spurgeon. Il a compris qu'en fait, ce n'était pas ses bonnes actions. C'était simplement de regarder. Et c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre. C'est aussi stupide de dire que, stupide entre guillemets, de dire que si on regarde un serpent en bronze, ça va guérir d'une morsure mortelle de serpent. Mais c'est exactement ce que Jésus nous dit. Regardez à moi. Regardez à Christ. Le prophète Ésaïe a dit que nous étions tous comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. C'est Jésus qui a pris notre péché à tous sur lui-même. Et rejeter Jésus, c'est ce que la Bible appelle blasphémer contre l'Esprit Saint. C'est rejeter le ministère de l'Esprit Saint. Dans Matthieu 12, c'est au début du Nouveau Testament, page 14, verset 31 du chapitre 12, page 14, le péché contre le Saint-Esprit. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Et là, il est dit, quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit ne lui sera pas pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Et donc, la chose la plus critique, c'est de rejeter ce que l'Esprit Saint veut nous montrer, c'est-à-dire que Jésus est le remède à nos péchés. C'est un peu comme si quelqu'un vous envoie un moyen de sauvetage, un bateau. C'est l'histoire de cet homme qui est pris par les inondations. Il y a un hélicoptère qui vient. Il dit non, j'attends que Dieu vienne me sauver. Il y a un deuxième hélicoptère qui vient et qui dit non, j'attends que Dieu vienne me sauver. Finalement, il meurt et au ciel, Dieu lui dit mais qu'est-ce que tu as fait? Il a dit mais j'ai prié pour que tu viennes et tu n'es pas venu. Il a dit et je t'ai envoyé un premier avion, un deuxième avion et tu n'es même pas venu. Dieu nous sauve par Jésus. Et si nous rejetons ce sauvetage de Dieu, il n'y a plus rien pour nous. Il n'y a plus rien. Et ça, c'est la raison pour laquelle beaucoup de bonnes personnes vont en enfer. Et la raison pour laquelle beaucoup de mauvaises gens, beaucoup de mauvaises personnes vont au ciel. Nous avons tendance à juger par les actions, par les actes. Mais les meilleures actions... La mère Teresa, dont on vient de célébrer les funérailles nationales en Inde, si elle n'a pas mis sa foi en Christ, ce que j'espère elle a fait, j'ose espérer qu'elle l'a fait, mais la somme de bienveillance, de charité, de sacrifice d'elle-même qu'elle a donné, qu'elle a montré, qu'elle a inspiré aux autres, ça ne servirait de rien sans la foi en Christ. Ça, c'est difficile parce que l'homme n'aime pas recevoir sans pouvoir répondre. C'est difficile de recevoir un cadeau sans dire « Bon ben, vous m'avez invité, je vais vous inviter, vous m'avez fait un beau cadeau, tenez, voici quelque chose. » De recevoir sans essayer de jouer la réciproque, c'est très difficile. Et Dieu veut que nous arrivions à comprendre que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Nos meilleures actions, nos meilleurs sentiments, tout ça ne sert de rien. Nous devons regarder à Jésus. Jésus est l'antidote de nos péchés. Et donc, le pire péché, c'est de ne pas croire en Christ. Et ça, l'Esprit Saint peut être à l'œuvre pour convaincre les gens qu'en ne suivant pas Jésus, ils sont convaincus de péché, c'est le péché dont il est question. La deuxième chose dont l'Esprit Saint nous convainc, c'est de justice. Quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice. Et plus loin, il dit, de justice parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus. Alors, la justice, aujourd'hui, on pense aux tribunaux. Mais la justice dans la Bible, c'est être déclaré juste par Dieu. C'est être accepté par Dieu, être acceptable devant Dieu. Donc il va convaincre le monde de ce qui est juste. Et là il nous dit, parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus. Et là c'est comme il y a un petit saut dans le raisonnement qu'on a du mal à comprendre. Pourquoi est-ce que le fait qu'il va partir et qu'on ne va plus le voir va convaincre le monde de justice, de ce qui est bon, de ce qui est juste. On s'attendrait plutôt à une série de préceptes disant que pour être accepté par Dieu, il faut pratiquer l'amour, la vérité, la miséricorde, l'honnêteté. Mais il nous dit, c'est parce que je vais vers le Père. Et parmi nous, il y a beaucoup de critères pour évaluer ce qui est droit, ce qui est juste. Vous vous souvenez que Pascal disait « Vérité en deçà des Pyrénées et mensonge au-delà » pour dire que, suivant le pays où on se trouvait, une chose est légale dans un pays et est illégale dans un autre. Même au sein des églises, il y a des pratiques qui sont condamnées par certains puis qui sont acceptées par d'autres. Si vous allez aux États-Unis ou si vous êtes autour des Américains, vous verrez qu'on boit beaucoup de café dans les églises. On avait un budget dans notre église de 6 000 $ par an. Ça fait 3 000 francs de café. C'était sur un budget important. Mais quand même, ça représentait beaucoup de café. En Suède, c'est l'inverse. Boire du café, c'est être comme une addiction, comme être drogué. C'est une drogue. Et c'est vrai que quelque part, on a besoin de la caféine pour continuer. Par contre, en Suède, c'est bien de, c'est pas jugé mal si, parmi des chrétiens on boit de la bière. Par contre, aux États-Unis, si quelqu'un boit de la bière ou du vin même, ici on boit du vin à nos repas fraternels sans penser à mal. Bien sûr, si quelqu'un avait un problème ou on voyait quelqu'un, on arrêterait, mais... Ou alors il y a des églises où les femmes ne doivent pas se maquiller. Il y en a d'autres où, au contraire, elles peuvent être bien maquillées, bien habillées, bien soignées. Dans d'autres, par contre, porter un chignon et n'avoir aucun un maquillage, alors ça, c'est un signe de sainteté. Tout ça parce qu'on a, des critères culturels. Pas de chignon. Mais Jésus a dit à ses apôtres, Matthieu 5, 21, « Si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Et il est dit que les disciples étaient choqués parce qu'à leurs yeux, les pharisiens, les scribes, c'était justement ces hommes qui vivaient très religieusement et qui étaient devenus des experts dans le respect de la loi et des commandements. Ils avaient même ajouté des commandements à partir des principes qu'ils trouvaient dans la Bible. Votre Père Céleste est parfait. Alors c'est un peu l'histoire de la barre, hein, quand on fait du saut en hauteur. Les disciples pensaient que la barre était là et que seuls les pharisiens qui s'entraînaient tous les jours à suivre les petites règles arrivaient à passer la barre. Et puis Jésus, là, il met la barre avec presque à l'infini. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Si vous demandez à Nancy, elle vous dira que je ne suis pas parfait. Si des fois vous aviez des doutes, elle sera ravie de le confirmer. Cette perfection, elle est pas de ce monde, elle est en Jésus. Et lorsque Jésus nous dit le fait qu'il est monté aux cieux nous montre la justice qui est juste aux yeux de Dieu, ça nous montre qu'en fait, Jésus est l'exemple seul de ce que Dieu peut accepter. Cette perfection dans la vie morale, dans la vie d'amour, dans la vie physique, le fait que Jésus aille vers le Père, que le Père ait accepté son sacrifice, prouve qu'il est juste comme Dieu le désire. Il est accepté par le Père. Et cette acceptation, c'est ça que nous recevons, c'est cette acceptation qui nous est donnée, attribuée par notre foi en Christ. Pas par nos bonnes œuvres, pas par nos efforts pour sauter 1m20, 1m80, ou à la perche 6m05 ou 6m10. Non, tout ça, c'est encore bien, bien loin de ce que Dieu attend. Tournez-vous dans Philippiens, page 225. Paul nous explique la même chose dans Philippiens. Philippiens 3, 9. Et c'est Paul qui explique que il fait toute chose afin de gagner Christ, verset 8 et verset 9, et d'être trouvé en lui, non avec une justice qui serait la mienne et qui viendrait de la loi, mais avec la justice qui est obtenue par la foi en Christ, une justice provenant de Dieu et fondée sur la foi. Une autre version l'explique en disant « Je n'ai pas la prétention d'être juste grâce à mon obéissance à la loi, c'est par ma foi en Christ que je suis juste, grâce à cette possibilité d'être juste qui vient de Dieu et que Dieu accorde à celui qui croit. » Encore une fois, ce ne sont pas nos bonnes œuvres, ce ne sont pas nos actes, nos pensées qui nous rendent justes aux yeux de Dieu. C'est notre foi en Christ. Ça, c'est un verset aussi que vous pouvez encadrer. Si je veux être accepté par Dieu, je dois être juste, je dois être aussi bon que Jésus-Christ. Rien de moins ne marchera. Mais par la foi en Christ, ce label parfaitement juste, Dieu le met sur notre compte personnel. C'est un peu comme ces labels de qualité qu'on trouve sur certains produits alimentaires, tampons. Si nous avons la foi en Christ, ce qu'il a fait sur la croix, que nous sommes pécheurs, mais que nous allons vers lui, alors à ce moment-là, il nous met ce tampon parfaitement juste aux yeux de Dieu. Alors bien sûr, on dit, mais c'est trop facile, alors si on peut faire n'importe quoi, puis dire qu'on croit, non, bien sûr que non, parce que si on croit vraiment, alors Dieu va nous transformer. L'Esprit Saint en nous, on a vu que c'était une personne, c'est lui qui va commencer à conduire la voiture, qui va commencer à faire le double débrayage, qui va pédaler, qui va passer les vitesses. Finalement, revenons à Jean 16. Troisième chose dont l'Esprit doit convainc le monde, c'est le jugement. Et là encore, on est un peu surpris par son explication lorsqu'il dit de jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Alors dans la Bible, il est question de plusieurs jugements. Il y a le jugement universel dont on parle souvent, qui a été représenté par des artistes peintres, qui s'appelle le jugement du grand trône blanc, parce que dans le passage dont il est question, Apocalypse 20, il y fait référence à ce grand trône blanc. Et à ce jugement, en fait, ce sont tous les incroyants qui seront jetés dans le lac de feu. Puis un autre jugement qui est le jugement devant le tribunal de Christ, là où les œuvres des croyants seront testées par le feu. Et là, Dieu va pouvoir juger les motifs de nos cœurs, voir si c'est nos bonnes œuvres, c'était pour glorifier Dieu ou non. Et là, ce n'est pas un jugement qui va résulter peut-être en la punition et la mort éternelle, mais c'est un jugement pour évaluer nos œuvres en tant que chrétiens. Et là, en fait, il n'est pas question de ce jugement, il est question du jugement de Satan. Le prince de ce monde, c'est une expression qui parle de Satan. Satan est déjà jugé, le diable est déjà jugé. Un passage dans Colossiens 2, 14 nous en parle, page 228. Il décrit ce qu'a fait Jésus-Christ à la croix, page 228, Colossiens 2, 14. Parlant de Jésus, il dit « Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. » L'acte rédigé contre nous, c'était en fait le fait que nous n'avions pas été capables de vivre les 10 commandements. Et cet acte qui nous condamne, il dit qu'il l'a supprimé en le clouant à la croix. En mourant sur la croix, c'est comme s'il avait pris cette condamnation, il a dit « c'est moi qui la prends ». Et en ce faisant, il a vaincu les principautés et les pouvoirs, c'est-à-dire les forces du diable et le diable, et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Sur la croix, Jésus a jugé le diable. Satan a toujours eu un grand pouvoir sur le monde, depuis la chute et le péché originel, mais on voit qu'aujourd'hui, il a toujours un grand pouvoir sur le monde. Quand Dieu a créé le monde et qu'il avait donné à l'homme l'autorité sur la terre, ça c'est dans la Genèse, le premier chapitre de la Bible, Genèse 1:25-1:26, donc ça c'est aux pages 2, au tout début de la Bible. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Donc Dieu donne à l'homme le contrôle, le pouvoir sur la terre. Mais en obéissant à Satan, l'homme a transmis cette autorité au diable. Romains 6, 16 dit que nous sommes esclaves de celui à qui nous obéissons. Lorsque l'homme a obéi à Satan, il s'est mis sous la coupe de Satan et c'est à lui qu'est revenue la domination sur la terre. Et vous vous souvenez d'ailleurs que lors de la tentation de Jésus dans le désert, Satan c'est le diable. Oui, mais et à un moment, lorsque Jésus a été tenté par le diable, il est dit dans Luc 4 que le diable, lui montrant tous les royaumes du monde, il lui a dit, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été remise et je la donne à qui je veux. Donc là, Jésus n'a pas dit non, c'est pas vrai. Jésus savait que c'était la vérité. Tous ces royaumes, tout le monde, ça a été remis à Satan, et c'est Satan qui a l'autorité sur ce monde maintenant. Nous prions que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais c'est pas encore arrivé, c'est pour ça qu'on prie cette prière. Dans Hébreux 2, 8, c'est un passage important aussi, page 247. Parlant de Jésus, il est dit, « Tu as mis toutes choses sous ses pieds, en lui soumettant ainsi toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui reste insoumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. » Maintenant, tout n'est pas encore soumis à Jésus. Et c'est évident. Il suffit de voir les nouvelles, il suffit de regarder la télévision, d'entendre parler des meurtres, des choses horribles, des guerres. Et il est bien évident que tout n'est pas encore soumis à Dieu. Mais Jésus va revenir. Et lorsqu'il reviendra, il va prendre le contrôle de toutes choses. Il est dit qu'il va utiliser son sceptre comme un bâton de fer pour casser l'opposition. Et Dieu va ramener ce monde tel qu'il Dieu le veut. Il y a des passages merveilleux de l'Ancien Testament, même du Nouveau, où l'on voit comment, dans le monde que Dieu veut, l'agneau peut demeurer avec le lion, l'homme petit garçon peut jouer avec l'aspic, la vipère. Il y a des passages qui nous montrent que le désert va fleurir, que des rivières irrigueront le désert. Dans l'Apocalypse, il est dit qu'il n'y aura plus de peur, plus de souffrance, qu'il y aura une harmonie avec Dieu. Et souvent, les gens disent, mais je ne comprends pas que Dieu permette ceci. Je ne comprends pas que Dieu permette que les enfants souffrent, soient molestés sexuellement, qu'il y ait des guerres, qu'il y ait de la haine. Élie, je ne comprends pas Dieu, je ne peux pas l'admettre. Ils se permettent de juger Dieu. Mais vous pouvez leur expliquer, ce n'est pas le monde tel que Dieu le désire, c'est le monde tel que Dieu, l'homme, l'a rendu, en le donnant au diable. Et en fait, la Bible explique que les gens sont prisonniers contre leur gré. Souvent, on se met en colère contre telle ou telle personne qui fait des méfaits horribles, sans réaliser que cette personne est une esclave de Satan. Dans 2 Timothée 2, 26, il y a un passage, page 241. c'est juste avant le chapitre 3, page 241, à la fin, pour revenir, donc ils vont revenir à leur bon sens pour se dégager du piège des pièges du diable qui les a capturés afin de les soumettre à sa volonté. Ou encore dans 2 Corinthiens 4, il est dit que le Dieu de ce monde a aveuglé les hommes dans leur intelligence. Il a aveuglé leur intelligence. 2 Corinthiens 4, 4. Et pourtant, ce verset dans Jean 16, 2 Corinthiens 4, 4, nous parle du fait que le Dieu de ce monde a aveuglé leur intelligence. Les gens ne voient pas. Ils sont aveuglés spirituellement. Et ce verset nous dit, le prince de ce monde a été jugé. Ça veut dire en fait que tout pouvoir qui paraît appartenir à Satan aujourd'hui sur la terre et sur nous n'est en fait qu'une autorité usurpée. Il a été jugé. Ça veut dire que nous n'avons pas à être sous la domination de Satan, être esclaves de la corruption. Nous avons en nous l'Esprit Saint qui est plus grand que celui qui est dans le monde. Et le chrétien n'a pas à obéir à Satan. Le fait de recevoir Christ, la justification, d'être déclaré juste par Dieu, ça coupe les chaînes qui nous liaient au péché. Pour le chrétien, le péché est un choix. Et Dieu nous laisse toujours le choix. Nous avons aussi l'aide de l'Esprit Saint pour dire non au péché. Et c'est vrai que c'est important de réaliser cela, parce que lorsqu'on prie, comme Marie-Christine a fait tout à l'heure, pour des personnes qu'on aimerait voir venir à Dieu, il faut réaliser que ce n'est pas nous qui pouvons les convaincre. Parce qu'ils sont aveuglés. Ils n'ont pas encore la lumière. Et donc il est bon de dire que, de prier, Seigneur, j'invoque la puissance de Jésus-Christ pour que tu enlèves l'aveuglement, libère-les, redonne-leur la vue. Les gens qui rejettent Dieu, en fait, n'ont plus la liberté de choix. C'est l'ennemi qui leur impose cette vision des choses. Mais Dieu, par l'Esprit Saint, peut les convaincre de justice, peut leur convaincre de jugement, peut les convaincre de péché. En quelque sorte, Satan n'a plus aucun pouvoir légal sur nous. Jacques a dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Et en fait, ça on pourrait dire, choisissez votre vrai patron, ne choisissez pas l'imposteur. Vous pouvez imaginer quelqu'un arrive à votre travail et dit « ça y est, je suis le nouveau patron, et puis maintenant on va faire les choses comme ça ». Et en fait, c'est pas vrai. C'est exactement ce qui se passe avec l'ennemi qui dit « non, tu dois pécher, tu peux pas t'en sortir, tu as toujours fait ça, tu n'as pas d'espoir, Dieu ne t'aime pas, etc. » C'est la même chose. On peut choisir notre patron, dire « non, c'est désolé, mais j'ai un autre patron ». Le péché est encore dans le chrétien, malheureusement. Lorsque nous nous convertissons, lorsque nous venons à Christ, nous avons toujours notre vieille nature de péché. Et le péché, le diable contrôle le monde qui attire notre chair, notre vieille nature. Et on est toujours prêt comme des poissons à sauter sur l'appât qui passe devant notre nez. Si vous avez fait la pêche à la truite, là, on essaye de faire passer un truc comme ça et la truite va sauter dessus. De la même façon, dans Jacques, il utilise les mêmes termes de pêche pour dire qu'en fait, ce sont des appâts, des leurres. Mais celui qui est mort à la vieille nature, il n'a pas besoin de répondre au péché. Sa vieille nature est toujours en lui, mais il peut dire non au péché. Et ça, c'est encore une des puissances de l'Esprit Saint en nous. Deux ministères, donc, dont il est question dans ce chapitre 16, le ministère de consolation et le ministère de conviction. Et ces deux ministères nous permettent de nous rapprocher de Jésus, de vivre en harmonie avec Dieu. Pour ceux qui ont accepté le Seigneur, ils savent que sur la terre, il y a seulement... Nous sommes ici que pour un temps, nous sommes de passage. Mais pendant ce passage, nous pouvons être consolés par l'Esprit Saint. Jésus a dit qu'il était avec nous jusqu'à la fin des temps. Il est avec nous par la présence de son Esprit en nous. Et là aussi, il nous rappelle que nous ne pouvons pas être sauvés en dehors de Jésus-Christ. Ce n'est pas nos bonnes actions. Il nous montre que la seule façon de vivre qui puisse plaire à Dieu, c'est la façon de vivre comme Jésus. Jésus est notre modèle. Finalement, il nous rappelle que le diable n'a plus de puissance sur nous, parce qu'il a été jugé. C'est un pouvoir usurpé. On peut dire non, je ne suis pas d'accord. Pour ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur, le ministère de conviction doit leur montrer que le péché, c'est vraiment justement de rejeter Christ. Il nous montre en Christ que c'est ça qui est le vrai idéal. Le vrai idéal, c'est pas Lady Diana, c'est pas la mère Teresa, aussi sainte ait-elle été, entre guillemets. Le vrai modèle, c'est Jésus. Et là aussi, de rappeler que si nous suivons le diable, alors nous allons encourir le même jugement que celui qui lui a été réservé, qui lui est réservé dans le futur. Le diable a été vaincu à la croix, mais c'est seulement à la fin des temps que le diable va recevoir son châtiment. Il y a une expression, on dit si le diable essaye de vous rappeler votre passé, rappelez-lui son futur. Il n'a plus à avoir d'emprise sur nous. Et ça, c'est ce que fait le Saint-Esprit, entre autres choses. Saint-Esprit qui est Dieu, qui est une personne, qui nous aime, qui est présent. Saint-Esprit est là pour nous montrer comment vivre. Prions. Seigneur, merci pour le don du Consolateur, pour le don de l'Esprit Saint que tu nous as fait, Seigneur. Tu as même dit que c'était important que tu passes par la croix, que tu remontes au ciel, qu'on ne te voit plus, parce que là tu pourrais envoyer le Consolateur, qui est un autre Consolateur de la même nature que toi, Seigneur, qui a toutes les mêmes capacités, la même puissance pour nous aider à vivre la vie que tu veux, Seigneur. Je te prie de travailler dans le cœur de ceux que nous aimons, ceux qui ne sont peut-être pas encore venus à toi, Seigneur, pour que ton Esprit Saint, Seigneur, les convainque de péché, de justice et de jugement. De péché parce qu'ils n'ont pas encore cru à toi, de justice parce que tu es remonté vers le Père, et de jugement parce que le maître de ce monde a été jugé, Seigneur. Agis dans nos vies, Seigneur. Aide-nous à te laisser vivre en nous, Seigneur. Béni sois-tu. Prions toutes ces choses par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.